En ce début du mois d'août 1992, dans le grand salon d'honneur de l'Élysée, quelques rangées de sièges ont été installées pour des officiels de l'espace et une poignée de journalistes. Nous sommes invités par le CNES pour ce que l'on appelle dans le jargon une vidéotransmission avec l'espace. Autrement dit, une liaison programmée à une heure bien précise avec la station spatiale Mir. CCM, comment ça marche ? Un podcast de Michel Chevalet par Michel Chevalet. Et je vais vous raconter mes anecdotes, mes souvenirs de tournage, mes aventures. Et surtout, vous expliquer les phénomènes scientifiques collés à l'actualité pour simplement savoir comment ça marche. Allez, on y va ? Épisode 1. Comment j'ai failli devenir astronaute ? Ce n'est pas la première fois qu'un Français profite ainsi de la coopération franco-soviétique. Ce jour-là donc, quand Michel Tonini apparaît sur le grand écran, il est entouré de son équipage du Soyouz qui l'a amené sur Mir, ainsi que des deux cosmonautes déjà à bord de la station, Alexandre Viktorenko et Alexandre Kaleri. Face à eux, le président de la République. Il a l'air visiblement fatigué. On lui a aménagé un bureau derrière lequel il prend place. Nous sommes une poignée de journalistes. Comme d'habitude dans ce genre de sport, le CNES a exigé que nous lui soumettions les questions à l'avance. Bien entendu, nous sommes pliés à la coutume, mais on est conscient de l'hypocrisie du système. La langue de bois était hélas souvent de règle. François Mitterrand ouvre le bal avec les sempiternelles questions de circonstance. « Comment allez-vous ? » ?»« Bien, » répond Michel Tonini. Et c'est vrai qu'il semble en pleine forme. Le président enchaîne. « Que faites-vous dans la station ?»«
Je suis là, président, pour réaliser des expériences scientifiques. »
Après avoir décrit au président ses conditions de vie, Michel entame un petit couplet plus politique. Le CNES, dans son souci de tout contrôler, lui a suggéré de plaider la cause des vols habités. Discipline, il rappelle, dans la nécessité de construire un véritable programme spatial, et non pas, comme c'était le cas à l'époque, d'opérer au coup par coup en fonction des opportunités politiques. Et le message semble plutôt bien passé. Alors qu'il interviewe en longueur Michel Tonini, et qu'une durée de 12 minutes était prévue, visiblement fatigué, le président coupe court à l'entretien. Il remercie Michel Tonini.
Je vous souhaite une bonne mission, monsieur Tonini.
Il se lève et se dirige alors vers moi, assis au premier rang, et me désigne son bureau.
Vous voulez être à ma place, monsieur Chevalet ?
Stupéfaction. Je bredouille.
Pas à votre place, président.
Sourire en coin de François Mitterrand. Non, je ne vous dis pas à ma place. Mais là-haut, c'est votre ami. Vous le connaissez. Alors, prenez mon siège. Sous-entendu, continuez la vidéotransmission. L'aubaine d'avoir un peu plus de temps imparti pour le CNES était trop belle. Je m'installe derrière le bureau du président, tandis que Michel en profite pour nous faire un tour du propriétaire. Ayant l'antenne en direct, car on était en direct sur TF1, et ce de façon inattendue, je décide d'occuper un maximum de terrain cette bonne guerre vis-à-vis de mes confrères, dont, bien sûr, je ne me suis pas fait que des amis. Mais c'est ainsi dans le monde journalistique. Et donc, le temps passant, je rends l'antenne à mon ami, le présentateur Jean-Claude Larcy. Mission accomplie. Je rejoins alors au premier rang un petit groupe d'observateurs composé des représentants du CNES, dont son président, Frédéric Dallest, du ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert Curien, et bien sûr, François Mitterrand.
Ce dernier, à ma grande surprise, m'interpelle et me lance. Vous aimeriez bien être à sa place, monsieur Chevalet.
Bien sûr, monsieur le président, j'en rêve. Il se tourne alors vers son ministre ubercurien.
Monsieur le ministre, dit-il sur un ton très révérencieux, est-ce que notre ami pourrait aller dans l'espace?
Interloqué, ubercurien me regarde et dit, feu, Michel, je pense que vous avez les capacités physiques et intellectuelles du niveau de celles de nos astronautes. Seriez-vous d'accord pour aller là-haut?
Je réponds avec enthousiasme, oui, tout de suite.
Amusé, le président interroge alors son ministre.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse?
Vous savez, monsieur le président, répond le ministre, il faudra qu'il suive un entraînement d'un an à la Cité de l'Espace avec les autres cosmonautes, les futurs candidats français, dont Jean-Pierre Ignoret.
Le plus dur d'ajouter, ce sera l'apprentissage intensif de la langue russe. Vous savez, c'est difficile. Il doit parler couramment russe, c'est plus compliqué savoir écrire et lire afin de comprendre les notices techniques rédigées uniquement en russe.
Cela nous coûtera combien? Interroge le ministre, demande François Mitterrand.
Le prix normal, monsieur le président, d'un passager à bord de Soyouz.
Combien? Insiste énervé François Mitterrand. Monsieur le président, 80 millions de francs.
Bien, monsieur le ministre, faites le nécessaire.
Ubercurien est médusé, il se tourne vers moi. Michel, vous savez ce qu'il vous reste à faire?
Puis le président tourne les talons et quitte la salle. Moi, je suis comme un astronaute au moment du décollage de la fusée. Je suis le cœur à 140, je suis quasiment en apesanteur. Je crois bien que je flotterai. C'est le rêve incroyable, mais incroyable! Le rêve de ma vie, aller dans l'espace.
De retour à TF1, je me précipite pour appeler Patrick Lelay, le président directeur général de la chaîne. Bon, il ne répond pas immédiatement. Dans l'après-midi, il finit par me recevoir dans son bureau. Je lui fais part de ma conversation avec le président de la République et de son souhait de me voir partir dans l'espace dans un an. En clair, je lui demande une mise à disponibilité immédiate.
Pas une hésitation de sa part. Vous pouvez partir tout de suite, me dit-il.
Ma seule condition, c'est que vous me fassiez un direct depuis là-haut et que l'on voit le logo de TF1 en orbite autour de la Terre.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, unité,
et dire que j'aurais pu être le deuxième journaliste à aller dans l'espace, eh oui. Le premier à réaliser un direct, c'était deux confrères, des journalistes japonais. En 1992, une japonaise, Ryoko Kikuki, est autorisée à suivre l'entraînement à la fameuse Cité des Étoiles pour un séjour à bord de Mir. Hélas, quelques jours avant le lancement, elle est victime d'une crise d'appendicite qui la condamne à rester au sol. Elle cède alors sa place à un autre journaliste japonais, Toyohiro Akeyamaya. Malheureusement pour lui, il est victime du mal de l'espace et passe presque tout son temps à vomir, recroquevillé dans un coin de la station Mir et incapable de s'exprimer devant une caméra de télévision. Un échec. La règle veut que, malgré l'entraînement et les tests, en effet, un astronaute sur deux soit victime du mal de l'espace. Et la même mésaventure aurait bien sûr pu m'arriver durant mon vol. Cela valait tout de même le coup d'essayer. Malheureusement, la politique s'en est mêlée. Le président était très fatigué. Sans doute la maladie. La gauche aura battu aux élections législatives de 1993. Hubert Curien quittera alors son poste de ministre de la Recherche et ma mission disparaîtra de l'ordre du jour. Fin donc d'un beau rêve. Je suis toujours là, les pieds sur terre, mais je vous ai fait économiser sur vos impôts 80 millions de francs.